chaque jour on fêtait une naissance. Ici tu chopes la cavette en riz, ici l'hiver à manger la menuiserie. Donc une règle, si tu n'es soit robuste, pas de caliméro pour toi c'est trop injuste. Rue où le feu c'était des femmes jalouses, pas consolées par les guitares andalouses. À 14 ans les filles rêvaient d'être mères, pèlerinage Sainte Marie de la Mer. Passe la vie, passe le temps, passe la vie, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la vie, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la caravane et pourtant.
C'était pas la ruelle, c'était rue des Chameaux. Une impasse où je t'aime était un gros tuyau, où les prénoms tu pourras le vérifier sont pas de ceux qu'on trouve dans les calendriers. Par la rue des déclinaisons latines, on s'appelait devine mâche et machine. Et le cuivre, la ferraille et même le zinc était unique et à l'âge des magasins. Et comme l'a dit l'autre,
vive la France.
Rouler Peugeot 102 sans assurance, à rue de cité pas d'ici je t'escorte, à moins que tu vendes ta Ford Escort.
Passe la vie, passe le temps, passe la vie, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la vie, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la caravane et pourtant. Passe la caravane et pourtant.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et on va parler un tout petit peu de psychiatrie avec une intervention de psychiatre, mais dans une affaire qui est assez ancienne et dont on voulait vous parler aujourd'hui. Bonjour Sylvie.
Bonjour. Elle est assez ancienne, mais elle a été réactualisée. C'est pour ça que on va d'abord déjà un peu poser le contexte de l'affaire Cantat. On part de l'idée que tout le monde connaît Bertrand Cantat. On s'est rendu compte que c'était pas forcément le cas. Le truc, c'est que l'article, je crois, date de quelle année, 2003, quelque chose comme
2003.
Ça.
2003.
Voilà. Et or, la mort de la femme du chanteur par suicide, Christina Radi, qui était a un peu remis sur le devant de la scène le bas Bertrand Cantat lui-même. Donc, pour préciser justement ce contexte, parce que ça donne un autre éclairage au diagnostic ridicule, faut bien le dire, des psys dans le Nouvel Observateur que tu
qu'on va lire tout à l'heure.
C'est plus que ridicule, c'est immonde, on peut dire. Enfin. Je cherche des adjectifs, mais voilà. Je pense que c'est assez immonde, ces diagnostics. Et donc, c'est pas dans une petite feuille masculiniste, c'est une feuille de chou masculiniste, c'est dans le Nouvel Observateur, qui est un journal de gauche, quand même assez, assez distribué. Hein. Mais donc, pour rappeler le contexte, donc, c'était effectivement, je crois, en 2003, ou à peu près dans ces eaux-là, donc l'article a été écrit dans la foulée de la mort de Marie Trintignant. Et donc, Bertrand Cantat tue sa copine, il la bat à mort. L'autopsie montrera qu'il lui a donné quatre coups extrêmement violents en pleine poire, en pleine figure, plus, je crois, une dizaine de coups ailleurs sur le corps. Mais c'est les coups à la tête qui ont tué Marie Trintignant. Et l'autopsie dira qu'elle était tellement défoncée qu'on aurait dit qu'elle s'était pris un mur sur une moto à pleine vitesse, quoi, pour dire un peu le contexte. Bertrand Cantat commence par la couche, enfin, il la couche et puis il appelle au téléphone l'ex de Marie Trintignant et puis son frère, et le frère qui est sur place en Lituanie. Marie Trintignant avait un tournage, il débarque et ils ne se rendent pas compte tout de suite qu'en fait elle est déjà dans le coma. Et quand il s'en rend compte, malheureusement il est déjà trop tard. Quand il faut bien qu'il s'explique, parce que sinon il appelle, c'est pour geindre sur son propre sort, évidemment. Il commence par dire que c'était un accident, il l'a poussé, il est malencontreusement tombé. Ce qui en plus est ridicule, parce que c'est quand même assez facile à l'autopsie de démonter cette théorie. Une fois que la théorie est démontée, il dit que c'est elle qui a commencé. Récemment, j'ai vu qu'il continue à dire qu'elle lui avait donné, elle était hystérique, elle lui a donné une pluie de coups, il avait horriblement mal parce qu'il avait mal au dos, il a eu un réflexe moteur, donc c'est pour ça qu'il a fait tout ça. Sans commentaire. Et donc, ce qui se passe par-dessus le marché, donc il a été condamné à quelques années de prison pour homicide involontaire. On peut supposer qu'en effet, c'était pas vraiment prémédité, comme beaucoup de féminicides, hein, d'ailleurs. C'est juste qu'il l'a battu à mort, quoi. Mais bon, voilà. La version déjà de Bertrand Cantat, c'est que quand on lui reproche, quand on dit qu'il faut plus qu'on comprend pas qu'il puisse venir la ramener sur scène et se faire applaudir. Enfin, même si, par contre, faire des chansons, mais le côté applaudir Cantat, il y a des féministes qui pensent quand même que ça veut dire applaudir un meurtrier. Bon. Donc, mais lui, il la ramène carrément. Quand les féministes le traitent de meurtrier, il leur fait des bisous pour se foutre de leur gueule. Il y a même une femme à qui il a fait une caresse en lui souriant. Enfin, c'est aussi pour se foutre de sa gueule, on a bien compris. Donc, c'est pour dire à quel point le pauvre est vraiment dévoré de remords. Mais donc, le truc que tu vas peut-être, que tu vas même sûrement lire tout à l'heure, c'est que, en fait, le dernier rebondissement, c'est que son épouse, qu'il avait donc quittée pour Marie Trintignant, il s'est remis avec elle. Et elle a laissé, une semaine avant de se suicider, elle a laissé un message sur le répondeur de ses parents.
On peut préciser que c'est le 3 juillet 2009.
Ah oui, oui. Donc c'était quand il est sorti de... c'est quand il est sorti, après être sorti de prison. Oui. Il n'avait que ça à la bouche, de toute façon. C'est la justice m'a par exemple a dit que... Enfin, j'ai fait mon temps de prison, donc je suis absous. Et puis la justice a dit que j'étais pas coupable du suicide de ma femme, Christina Radi, donc c'est que je suis innocent. Hein. C'est bien connu, la justice, on peut lui faire confiance. Si jamais elle dit que t'es coupable, c'est que t'es coupable. Si elle dit que t'es innocent, c'est que t'es innocent. Mais le fait est que même si, évidemment, moi je suis pas pour l'idée de la prison pour personne, en tout cas ça prouve absolument rien. Et je trouve que quand même, quand t'as ça quand même sur la patate, tu peux un peu raser les murs. Mais si tu peux lire ce qu'elle a dit... sur le répondeur de ses parents. Donc ça, c'est un truc avéré. Le bouquin dont c'est sorti s'appelle « Désir noir ». Et en fait, je le conseillerais pas vraiment. Parce que déjà, c'est écrit par une journaliste du Point. C'est intéressant parce qu'il y a des éléments factuels. Mais je trouve que là aussi, la justice l'a innocenté de diffamation. Mais il y a absolument aucun scoop. C'est juste une compilation pour ce qui est avéré. C'est juste une compilation. Et comme elle n'avait pas de scoop, enfin moi, c'est mon interprétation, elle a ajouté de prétendus témoignages anonymes. Et pour moi, ça a même un nom, ça c'est des oui-dire. Les témoignages anonymes, ça vaut rien. Rien, si tu veux, c'est franchement, moi je le fais, hein, des témoignages anonymes qui diraient que mes ennemis violent des petits enfants, ou tu vois, je veux dire, c'est franchement, c'est ça n'a aucune valeur. En revanche, le truc que tu vas lire, ça a une valeur. Parce que c'est quelque chose qu'on peut écouter.
Voilà,
le message qu'elle a laissé à ses parents a été rendu, enfin Christine Aradi a été rendu public. Donc si tu peux lire ce message qui est quand même assez édifiant.
Donc le livre, c'est Désir noir de Anne-Sophie Jeanne, paru en mars 2023. Alors. Je cite, donc, enfin, je dis le message d'emblée. Il aurait semblé que quelque chose de très bon m'était arrivé, mais en l'espace de quelques secondes, Bertrand l'a empêché et l'a transformé en un vrai cauchemar qu'il appelle amour. Et j'en suis maintenant au...
Quelque chose de très bon, parce que c'est pas le message intégral, c'est le fait qu'elle avait rencontré un autre homme. Ce qui lui a évidemment, à lui,
ah oui,
compta pas plus du tout.
Ouais. Donc il a empêché, oui, cette rencontre.
Il a empêché cette relation, oui.
Et l'a transformé en un vrai cauchemar qu'il appelle amour. Et j'en suis maintenant au point, alors que j'avais du travail pour tout ce mois-ci, ce qui ne supporte pas, qu'hier, j'ai failli y laisser une dent, tellement cette chose, que je ne sais comment nommer, ne va pas du tout. Il m'a balancé mon téléphone, mes lunettes, m'a jeté quelque chose, de telle façon que mon coude est complètement tuméfié, et malheureusement un cartilage s'est même cassé, mais ça n'a pas d'importance tant que je pourrais encore en parler. Mais, puisque nous avons donc décidé de revivre ensemble, et que Bertrand, n'est-ce pas, est à nouveau amoureux de moi, et ne peut vivre qu'avec moi, ce qui...
Ils ont deux enfants, hein, faut quand même le préciser.
Oui.
Des jeunes enfants.
Et donc ne peut vivre qu'avec moi, ce qui serait bien s'il était possible de vivre avec lui, mais on ne peut pas, et voilà. J'ai essayé et j'essaie de vivre de telle manière que je ne sois pas obligé de fuir, car soit il sera déjà trop tard pour fuir, faute d'être encore en état pour le faire, soit je réunis mes forces maintenant et je m'enfuis. Naturellement, vous pouviez deviner qu'une série d'événements encore plus regrettables que celle de 2003...
Donc la mort de Marie Trintignant
a eu lieu, car à l'époque, cela ne m'était pas arrivé à moi, tandis que maintenant, cela m'arrive, et déjà à plusieurs reprises, j'ai échappé au pire, et puis c'est intenable. Bertrand est fou, il croit que c'est là le plus grand amour de sa vie, et que, mis à part quelques petits déraillements, tout va bien. Et tout le monde, bien sûr, dans la rue, le considère comme une icône, comme un exemple, comme une star. Et tout le monde désire que pour lui tout aille bien, et après il rentre à la maison et il fait des choses horribles avec moi devant sa famille. J'espère qu'on va pouvoir s'en sortir et que vous pourrez encore entendre ma voix, et sinon, alors vous en aurez au moins une preuve que... Mais des preuves il y en a, les gens dans la rue et nos amis, car ce qu'ils ont vu hier quand Bertrand a tout cassé... Et j'ai eu peur que pour une fois cela ne se passe pas chez nous, mais chez nos amis. Et donc, si une telle chose devait arriver, il pourrait témoigner. Même si un témoignage n'aurait aucun sens, car tel que je connais Bertrand, il se suiciderait et alors les enfants resteraient là, orphelins. En admettant à nouveau Bertrand dans sa vie, elle était piégée, commentera la mère de Christina.
Oui, ça c'est après c'est les commentaires.
Est-ce qu'on les lit aussi? Non, c'est pas. Oui. Non,
enfin,
non,
si tu veux les lire.
Non.
Mais
bon, c'est pas très.
C'est plus son témoignage.
Oui. Eh ben voilà.
Bah oui. Donc voilà, c'est pour dire un peu ce qu'est le véritable contexte. Et donc toutes les interprétations psy. Tu vas lire après les passages de l'article du Nouvel Observateur. bah, tendent en réalité à minimiser le fait que c'est... Moi, j'ai un diagnostic, c'est un salaud et un connard. Hein, c'est... Qu'est-ce que oui, tu c'est... penses de mon diagnostic?
Bah, écoute, il est pas mal, il est assez peu, assez peu clinique et médical, mais en tout cas, il est politique. Voilà. Alors... Oui, c'est l'interview donc d'un psychiatre qui commente le drame de Vilnius, hein, ce fameux drame de Vilnius, à savoir l'assassinat de Marie Trintignant par Bertrand.
C'est pas un assassinat, non, c'est techniquement, c'est un meurtre, parce que l'assassinat suppose une préméditation.
Préméditation, hein, oui, d'accord. Donc, je me suis trompé de mot.
Excuse-moi, c'est ça.
Non, t'as raison de moi. Alors... Bon, le titre, déjà, bon, nous sommes renvoyés à notre fragilité.
Évidemment, c'est pas la fragilité de la femme battue.
Non, voilà, c'est ça. Alors, pour le psychiatre et psychanalyste, le drame de Vilnius nous fascine parce qu'il reflète nos propres relations de couple, leur ambivalence amour-haine et, dans les cas extrêmes, l'impossibilité de dépasser nos conflits autrement que par la violence.
Et juste une parenthèse, déjà, quand tu dis « nous », c'est bien les trucs des psys de te faire des diagnostics généraux comme ça. Ouais. T'as envie de lui dire « toi peut-être » dans ta relation de couple. Moi non, c'est vrai.
Alors, il y a beaucoup de choses. C'est un psychiatre hein, qui dit un peu des bêtises, en fait. Hein, et puis, alors, interviewé par le Nouvel Observateur de la semaine du 9 au 15 octobre 2003. Pourquoi cette histoire nous fascine-t-elle autant? Alors, le psychiatre s'appelle Samuel Lepastier. Son curriculum vitae, psychiatre et psychanalyste, enseignant à l'Université Paris 5, il a publié de nombreux articles sur des sujets aussi divers que les conduites sexuelles violentes, le harcèlement sexuel, l'hystérie et les médias, l'image de la mère chez Balzac. Alors, nous assistons à un drame, dit-il, qui rompt avec la grisaille de notre quotidien. Notre vie est faite d'obligations et de renoncements. Ici, nous vivons une scène extraordinaire. Un crime est une des choses les plus fascinantes qui soit, qui nous renvoie à nos pulsions de haine et de meurtre. La mort d'une actrice jeune et désirable, digne de signe de vie, exacerbe toujours les sentiments forts qu'elle a suscités auprès de son public. Le crime survient dans un univers qui nous fait rêver, celui des artistes. Ces gens-là, croyons-nous, vivent jusqu'au bout leur passion. Enfin, les deux personnages représentaient plus ou moins un idéal. Ils étaient des individus aux idées généreuses que nous avions créditées de valeurs positives et dans lesquelles on pouvait se reconnaître. Tout cela a éclaté. Une autre scène se joue sous nos yeux depuis 2 mois, entretenue d'ailleurs par les deux familles qui l'ont portée sur la place publique. Le livre de Nadine Trintignant nous prend à témoin. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Patrick Poivre d'Arvor nous avait par exemple raconté le drame de la mort de sa fille.
Oh, bah parlons. Enfin bref, n'en parlons pas.
Non. Cette fascination nous rend-elle proche ou lointain? Samuel Lepastier. Très proche. Nous aimerions bien invoquer, comme souvent, un contexte qui mettrait à distance cette histoire, mais rien ne tient la route. L'accusé n'est pas un beauf, il n'est pas fou. Un beauf, c'était à la mode à l'époque dire ça, apparemment.
Et puis c'est bien, c'est pas un beauf, pas n'importe qui.
Oui, voilà.
D'ailleurs, on peut se demander si ça avait été ce qu'il appelle un beauf, est-ce qu'ils auraient été aussi indulgents, est-ce qu'ils se seraient autant projetés en lui, est-ce que le Raymond de la Courneuve l'aurait renvoyé à sa fragilité?
L'argent n'est pas en cause, ces deux-là avaient chacun leur part de notoriété. Même l'alcoolisation de la soirée du drame ne pèse pas lourd. Nous sommes renvoyés sans échappatoire à nous, à notre propre violence, notre fragilité extrême, à l'écart entre ce que nous disons et nous faisons, et à l'ambivalence de nos relations de couple. La haine de l'autre est la contrepartie de l'amour que nous lui portons. Nous avons tous connu des moments où on souhaite être débarrassé de l'autre et cela nous fait peur, encore le « nous ».
Ça nous arrive tous, bien sûr.
En somme, on pourrait dire, comme dans la publicité, vous en rêviez, il l'a fait. Oui, voilà. Donc voilà, c'est un psychiatre, et donc il est censé avoir une sorte de savoir expert. Hein, ouais. Pourquoi prenons-nous si facilement parti pour un camp ou pour un autre ? Celui de la sainte assassinée par un monstre d'un côté, celui d'un héros malheureux devenu assassin malgré lui de l'autre. Samuel Le Pastier, c'est justement la fascination qui nous amène à prendre parti. Nous avons besoin de le faire pour nous approprier cette histoire. Cela permet de désigner un coupable et, encore une fois, d'éviter la question effrayante « Est-ce que cela pourrait m'arriver ?» Ce n'est pas notre appartenance à un sexe qui compte dans le choix que nous faisons, mais notre passé. En disant que Marie Trintignant l'a peut-être cherché, entre guillemets, ou que Bertrand Cantat n'a pas su l'aimer, entre guillemets, nous rejouons quelque chose de notre propre histoire.
Déjà, on peut quand même aussi signaler que l'appartenance à un sexe, quand tu vois les statistiques des féminicides, et en sachant que même quand un homme est tué par sa compagne, dans la majorité des cas, comme tu le sais sans doute, c'est pour se débarrasser d'un mari violent, justement, parce qu'elles n'ont pas trouvé d'autres moyens, tu dis, si, ça compte un tout petit peu quand même l'appartenance à un sexe. Mmh. Enfin, comme il dit nous, et puis que visiblement, il s'interroge surtout sur ce qui peut te mener à battre ta copine à mort. Bon, visiblement, c'est surtout ça qui l'interroge.
Alors après, le psychiatre fait allusion au tournage du film Colette, dont Marie Trintignant tenait un rôle, un rôle. Ouais, elle était Colette, je crois.
Oui, c'était Colette.
Et voilà. Et donc, alors, quel est pour vous, le Nouvel Observateur, quelle est pour vous la zone d'ombre du drame, Samuel Le Pastier ? Le tournage du film sur Colette. Le cinéma est un monde d'évasion et les acteurs savent ne pas perdre leur identité dans un rôle. Mais il est rare que leur psychisme ne s'en trouve pas modifié. Or, le rôle que jouait Marie Trintignant avait quelque chose de très particulier. Elle était une Colette amoureuse de son beau-fils, et ce rôle était tenu par le fils aîné de la comédienne. Un fils qui joue un beau-fils devenu un amant, le tout sous les yeux de la grand-mère derrière la caméra. Ce n'est pas anodin.
Et à part ça, une parenthèse, ouais, je suis assez d'accord que c'est assez tordu. Mais je ne vois vraiment pas ce que ça vient foutre là. Enfin, en quoi ça expliquerait que Bertrand Cantat ait mis Marie Trintignant dans un pareil état, oui, franchement.
Alors, il y avait confusion entre ce qui était joué et les gens qui le jouaient. Comment la comédienne et son compagnon, chacun de leur côté, ont-ils vécu cela ? Cette confusion des rôles, le fils se superposant au beau-fils, a-t-elle retenti sur leur état nerveux ?
Puis leur état nerveux.
Oui, tous les deux.
C'est à cause de son état nerveux à elle aussi s'est retrouvée aussi dans cet état.
Ouais. Évidemment. S'il assistait à tous les tournages, était-ce parce qu'il était jaloux ou parce qu'il avait le sentiment que quelque chose d'important lui échappait ? L'expérience montre que chaque fois que l'interdit de l'inceste est transgressé, cela a des conséquences incalculables.
Ben voyons.
Alors là, on va toucher à... voilà, quelque chose vraiment de... pourquoi un homme qui prétend aimer sa femme arrive-t-il à la frapper ? Samuel Le Pastier. On passe à l'acte quand on n'arrive plus à penser et à exprimer son agressivité avec des mots. Le meilleur moyen pour une femme de se faire frapper serait de mettre un baillon à l'autre pendant une scène de ménage. Voilà, donc...
No comment.
Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à avoir le dernier mot sur leur compagne. Plus habile à manier le langage. Alors là, c'est...
En plus, dans ce cas précis, c'est vraiment... Je dirais, ça serait risible si c'était pas si ignoble. Mmh. C'est que s'il y en avait un qui n'était pas une timide violette dans la mousse, c'était bien Bertrand Cantat. Mmh, hein. Oui. Le mec, si effectivement, il y a quelqu'un qui aurait fallu mettre un baillon... D'ailleurs, ça a été dit quand même... par quand même pas mal de gens, sa spécialité était, avant les concerts, de dénoncer les majors, dont le PDG de la major à laquelle il appartenait. C'est pour te dire que c'était vraiment pas le gars timide qui sait pas comment faire pour avoir le dernier mot verbalement, tu vois. Vraiment, c'est se foutre de la gueule du monde. Et une fois de plus, je suis fascinée, comme tu sais, je pense vraiment que c'est tous les psychiatres qui sont des charlatans, mais je pense aussi qu'on surévalue toujours les gens diplômés. C'est-à-dire que si tu veux, ça fait vraiment la montagne qui accouche d'une souris, et puis même pire que ça, d'une souris vraiment, d'une souris vraiment un peu malade, quoi, tu vois, parce que avaler des bibliothèques et être bardé de diplômes pour dire des trucs qui sont du niveau de Barney Gumble dans Les Simpsons bourrés comme une vache.
En fait, ne pas
s'en servir.
C'est
vraiment pas la peine.
Ouais. Non. En fait, ils se servent pas de leur connaissance.
Non, c'est vraiment des gros poncifs de bouffe, puisqu'ils parlent de bouffe.
Ouais, de bouffe, ouais, c'est ça.
C'est vrai.
Alors, allons jusqu'au bout de ce poncif sur les genres, avec beaucoup d'hommes n'arrivent pas à avoir le dernier mot sur leur compagne, plus habile à manier le langage. Ils n'arrivent pas à exprimer leurs désirs, ils n'arrivent plus à penser les choses, à mettre des mots pour traduire leur agressivité. Ils sont alors envahis par la peur d'être dévirilisés et passent à l'acte pour y échapper.
Soral sort de ce corps.
Et presque, oui. Après, on va plus loin. Et là, c'est... pourquoi une femme émancipée comme Marie Trintignant aurait-elle pu se laisser frapper sans rien dire? Samuel Lepastier. Quelle femme était Marie Trintignant? Nous n'en savons rien. Nous ne faisons que projeter deux images contradictoires.
Et juste une parenthèse, déjà, quand même, juste une parenthèse, pourquoi? Ben, t'as vu un peu le gabarit de Bertrand Cantat, et Marie Trintignant devait mesurer à peu près, dans les 1m60, c'est même pas elle était même pas grande et tout, et elle était épaisse comme mon petit doigt. Mm-hmm. Il y a un indice, non?
Oui.
Sur pourquoi elle se laissait frapper.
Ah ben oui, c'est ça. Oui. Mais elle lui donne une toute autre explication, donc, des choses... Très psychologique. Quelle femme était Marie Trintignant? Nous n'en savons rien. D'un côté, une femme libérée qui signait des pétitions et vivait des amours librement. De l'autre, une femme battue, victime d'un sadique. Avoir quatre enfants de quatre pères différents peut aussi bien être un signe d'épanouissement que traduire une profonde difficulté à aimer.
Même s'il fait semblant d'hésiter entre les deux explications, rien que le fait d'énoncer une hypothèse comme quoi ça serait un déséquilibre d'avoir des enfants de quatre pères différents, rien que le fait d'évoquer l'hypothèse me paraît mais vraiment immonde.
Oui, c'est comme une accusation. Quoi.
Bah, c'est comme un sous-entendu de... dégueulasse. Quoi.
Voilà, oui. C'est exactement. Après, il ajoute « Chacun de nous avance sa vision des choses sans échapper aux clichés. » Et Nouvel Observateur, que voulez-vous dire, Samuel Lepastier?
Ben, je parlais de moi, bien sûr. C'est ça qui répond, non?
Il répond « Ce n'est pas la première fois qu'une femme libre, meurt sous les coups d'un mari ou d'un amant. » Il est facile de faire de ce dernier un bourreau, mais ne faisons pas de tous les hommes au verbe haut des cogneurs en puissance. Il faut être deux pour s'affronter, et chacun y participe. Attention, je ne dis pas que les femmes l'ont bien cherché.
Un petit peu quand même.
Je dis que le féminisme, aussi vital soit-il, peut être aussi examiné dans ses effets négatifs. Les femmes ont-elles compris que de nouvelles lois ne suffiraient pas pour changer les hommes de l'intérieur et qu'elles ne se libéreraient pas sans eux?
Alors, déjà, il y a deux trucs dans ce que tu viens de dire. C'est que, en effet, moi, j'ai bien compris que les lois ne libèrent pas les hommes de l'intérieur. Ça signifie pas pour autant pour se libérer, ça sera avec... quand il dit « eux », une fois de plus, il généralise.
Oui.
Parce que je suis pas d'accord. Tous les hommes sont pas des... Comme il l'a plus que sous-entendu, il l'a dit carrément. Au début, il dit « nous, on est tous des cogneurs potentiels ». C'est quand même ce qu'il dit. Et or, c'est pas vrai. Et tu vois, par exemple, justement, c'est un truc à quoi je suggère aux gens que ça intéresserait de voir sur Internet.
Il dit « nous ne faisons pas de tous les hommes au verbe haut des cogneurs en puissance ».
Oui, bien sûr, mais enfin, après il dit que ça sera avec eux que... Il dit un truc
eux tous ensemble.
Après,
oui.
Que ça sera, on ne pourra pas faire sans eux, qui eux
oui,
avec les hommes cogneurs, tu vois.
Oui, oui.
Bah non, pas avec les hommes cogneurs. Donc avec les hommes pas cogneurs, ben t'as même pas besoin de... Enfin, je veux dire, si c'est quelqu'un qui juste a encore des petits réflexes machos, en effet, tu peux même discuter, tu vois. Mais en ce qui concerne Bertrand Cantat, non, ça se fera pas avec Bertrand Cantat. Ni avec tous ses collègues cogneurs de femmes, quoi, tu vois. Et en effet, que ce soit à mort ou pas à mort. Mais voilà, quoi. Donc, si tu veux, c'est encore une fois, il généralise tout en faisant semblant qu'il est dans la nuance. Oui. Mais tu dis pas un truc dans la nuance pour dire un truc comme ça après. Tu dis, ça se fera pas sans eux. Qui, eux? Tu vois. Et effectivement, il y a ce débat-là. C'est sur. Je vous conseille de faire une recherche sur un moteur de recherche. Et il y a, en fait, un extrait. Bon. C'est chez Ardisson, c'est nul, mais en même temps, la discussion est intéressante. Lio, qui était la meilleure amie de Marie Trintignant, Lio a elle-même été battue et a échappé à un mari qui était vraiment très très violent et dangereux, quoi. Et donc, c'était la meilleure amie de Marie Trintignant, et elle parle avec une écrivain qui est une snob, mais... Comme j'en ai vraiment rarement vu, elle n'est pas vraiment comme ça, tu sais. Et elle a écrit un livre pour dire que, en fait, Cantat est un héros magnifique, victime de la fatalité, etc. Et où elle ajoute que le véritable amour, c'est ça. C'est quelqu'un qui t'aime vraiment et te tape dessus, quoi, en substance. Et d'ailleurs, j'ajoute que Griselidis, l'idole du Strass, dans son autobiographie, elle dit ça aussi, qu'elle est battue, mais que c'est ça le vrai amour. Bon, quand un mec qui t'aime... Et puis que donc l'alternative, c'est soit un amour fade, tiède, ou bien alors le type, il te tape, tu vois. Idiot, il me fout des sous, il me fout des coups, il me prend mes sous, mais je l'aime. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Et donc, Lio se fout en pétard, évidemment, par rapport à ça. Et elle dit, je suis désolée, j'ai vécu ce que c'est d'être avec un mec violent, et j'ai vécu des relations intenses qui n'étaient pas violentes du tout, qu'elle ne peut pas entendre un truc comme ça. Et que par ailleurs, quand dans son bouquin, elle dit, de toute façon, victime de la fatalité, Bertrand Cantat, il est détruit, c'est un homme qui ne s'en remettra jamais, ben, on peut constater à quel point il s'en est super bien remis.
Voilà, et donc on voit que dans le propos du psychiatre, psychiatre a tendance à défendre le cogneur, en fin de compte.
Voilà. Donc si vous voulez voir ce truc, c'est Lio Muriel Cerf. Vous cherchez ça sur un moteur de recherche et vous verrez la vidéo. C'est vraiment intéressant, les arguments développés par Lio en particulier.
Voilà. On va faire une pause avec de la musique. Avec Diams, Ma souffrance.
Ah, tiens, je t'avais demandé, puis tu ne voulais pas le passer, je croyais.
Pas du tout.
Parce qu'elle a été réellement battue, Diams. Et donc, elle explique comment elle a fini par échapper à son mec violent, ouais, dans cette chanson. Très touchante, à mon avis.
C'était un samedi soir, avec mon mec on n'avait pas d'histoire. Il m'a dit bébé viens voir, on va faire un petit tour au square. Pas de problème, j'étais partant, tous les deux on s'aime. Tous les deux on s'aide et on kiffe une relation saine. Ça faisait 3-4 mois et on était bien, on n'avait rien. Mais peu importe, on était bien, donc viens. Ce fameux soir et on se promène, on ira loin je te le promets. Je crois qu'on s'aimait trop même. Au fil du temps je dois froncer les sourcils, je m'adoucis. Qu'est-ce qui se passe bébé, dis-moi t'as un souci. Ça sentait le roussi mais moi je suis connu, je suis resté. Il m'a dit tu vois tous tes copains, je commence trop à les détester. Mais bébé je fais du rap, j'aime ce que je fais, c'est des potes. Mon mec s'énerve contre tes voitures et casse des portes. Loin de me douter que sur moi il lèverait la main. Putain si j'avais su, crois-moi je serais bien loin. Je crois qu'on s'aimait trop même. Putain si j'avais su, crois-moi je serais bien loin. Je crois qu'on s'aimait trop même. Putain si j'avais su. J'étais perdu, en panique sur le trottoir. Je voulais rentrer, pas d'RER, 1h du mat, il est trop tard. Il me dit tu restes avec moi, c'est rien, ça va passer. Une minute après, j'ai juste senti mes côtes se casser. Quand t'as mal, tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses. Tes larmes coulent et ton pouls est en baisse, puis en baisse. Il m'a relevé, m'a embrouillé et puis m'a dit ferme ta gueule Mélanie et dis à ta mère que tu rentres mardi. Les mots sont trop doux, les coups trop violents. Puis il me donnait des coups de coude en tenant ce volant. J'avais mal et j'ai rien dit, j'ai eu peur et j'ai souffert. Fermez les yeux, baissez la tête. C'est tout ce que j'ai su faire, l'amour aveugle. Mais j'ai tout vu, c'était écrit. Malheureusement, j'avais pas tout lu. j'ai eu tort. Quand t'as mal, tu dis plus rien. Dans caisse et dans caisse. J'avais mal et j'ai rien dit. J'ai eu peur et j'ai souffert. Quand t'as mal, tu dis plus rien. Dans caisse et dans caisse. J'avais mal et j'ai rien dit. Durant 6 mois, j'ai enduré. J'ai pris des coups sans rien dire. En me promettant que s'il recommençait, bien j'allais partir. À chaque fois, c'était la même. J'avais trop peur qu'il me tue. Peur de lui, de ses faits et gestes. Peur d'être battu. Il avait réussi à me faire croire que rien ne l'arrêterait. Ni la police, ni ma mère, ni mon espoir. Pourtant, y'a pas de surhomme. Maintenant je le sais, y'a pas de sérum pour effacer toutes ces traces qu'il m'a laissées. C'est en rentrant mardi avec du sang sur mon visage que ma mère a composé le 17 pour un témoignage.
Oui, non, ma fille, c'est ma fille qui va pas bien. Appelez les pompiers, appelez les pompiers.
Mais tu sais pas toi, comme ça fait mal quand l'on donne. Je te parle de grosses blessures, pas de petites thérapies au gomme. C'est un point de béquille acharné. Depuis quand tu me tapes et tu me demandes d'effacer. Depuis ça j'ai bégayé durant des mois. J'ai voulu dégainer. Mais seul Dieu est juste, donc Dieu m'en soit témoin. C'est quand j'ai dit je t'aime que là j'ai découvert ce que ça faisait de se prendre des coups. Les cicatrices à la bouche ouverte. Ça fait 4 ans mais j'oublie pas. Je m'endors avec ça. Je me lève avec ça. Ça fait mal. Comprends que je puisse plus donner du cœur. Comprends que je puisse plus donner du cœur. J'avais trop peur qu'il me tue, trop peur qu'il me tue. Comprends que je puisse plus donner du cœur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, et nous écoutions Diams, Ma souffrance, puisque nous parlons de féminicide. Et donc, dans l'article qui commente qui s'intitule « Enquête sur une tragédie moderne », en 2003, sur l'affaire Quentin, Marie Trintignant, eh bien, il est écrit aussi la chose suivante. Les fans de Noir Désir n'ont pas fini de s'interroger sur l'amour qui peut rendre fou. Ils se demandent à longueur de forums, internet, si l'on peut encore écouter les disques du groupe. Une blanche colombe, un aigle noir, un monstre, une sainte, une femme fatale, un homme, un brave homme piégé. On débat, souvent sans sortir du manichéisme.
Et juste une parenthèse déjà jusque-là, ouais c'est assez manichéen, hein. Et on va dire, tu sais, il y a des gens qui se trouvent très subtils quand ils disent « Oh mais tu sais, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir et tout ». Ouais, moi je trouve que si tu veux, les choses sont assez carrées. Il y en a une qui est 6 pieds sous terre et l'autre qui fait son kéké sur la scène, quoi. Je trouve que c'est assez brut de décoffrage quand même comme situation. Et qu'en effet, il y en a une qui a été battue et l'autre qui l'a battue. Et je veux bien qu'il raconte qu'il a fait que se défendre, mais enfin, on arrête de se foutre de la gueule du monde, quoi. Je veux dire, oui, c'est assez manichéen. Hein. Mmh. Et le fait de dire, ouais, t'es... Enfin, tu sais, je disais, il y avait un mec qui m'avait dit, t'es manichéenne, c'est mal. C'était à propos du fait que je supportais pas la propagande néo-nazie, d'ailleurs. Mais effectivement, les féministes, par rapport à ça, par rapport aux femmes tuées sous les coups, ouais, c'est assez manichéen. Tu n'as pas à aller chercher midi 14h de savoir quelles étaient les parts de responsabilité. Et là, je fais une parenthèse parce que c'est une initiative que j'avais trouvée vraiment intéressante. Alors, c'est-à-dire que il y avait des féministes qui avaient décidé de faire le portrait de femmes victimes de féminicide. Ouais. Et alors, c'est merveilleux. D'ailleurs, moi qui lis souvent des histoires criminelles, j'ai toujours été fascinée qu'il y a plein de victimes. Tout le monde les aimait et ça me tue toujours parce que je ne connais personne que tout le monde aime, personne. Je veux dire, je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher des gens que tout le monde aime, tu vois, mais bref. Donc le portrait, ils étaient allés voir les familles pour voir le portrait de la femme qui avait été tuée sous les coups. Oui. Et en effet, c'était des saintes, c'est-à-dire, et puis alors des saintes en mode Elle s'occupait bien de ses enfants, elle faisait des confitures, enfin, tu vois, elle était serviable avec les voisins, je t'en passais des meilleurs. Peut-être, pourquoi pas, faisait du bénévolat à la paroisse, enfin, c'était vraiment ça. Et donc, des féministes, pour justement un peu mettre un coup de pied, vraiment un pavé dans la mare, elles avaient ajouté un dessin de leur cru, enfin, sur leur site à elles, où on voyait une femme qui. Puis, elle était. C'était une vraie connasse, elle buvait comme un trou. Elle fumait comme un pompier, elle emmerdait tout le monde, mais tout ça pour dire que elle, simplement, on n'a pas à rentrer non plus dans ces considérations-là. La seule considération, c'est qu'il y a des choses que personne ne mérite, et en particulier mourir sous les coups. Savoir si Marie Trintignant, sa famille, était un peu tordue, si elle-même, elle était névrosée d'avoir des enfants avec plein d'hommes différents, si elle, comme le prétend Bertrand Cantat, c'est elle qui a commencé, qui était hystérique, et puis qui lui avait mis une pluie de coups qu'il n'avait pas supporté, si elle était en tort d'avoir de continuer à avoir des relations, comme il l'a dit aussi, avec, enfin, d'envoyer des SMS à son ex alors que lui avait rompu avec Christine Aradi, enfin, tous ces trucs-là, toutes ces circonstances atténuantes, nous, on n'est pas un tribunal. Le seul truc qu'on dit, c'est qu'aucune femme ne mérite de mourir sous les coups. C'est tout. Oui. Enfin, voilà, donc toutes ces explications, comme quoi faut pas être manichéen, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, ouais, c'est pas une sainte, mais on s'en fout que de savoir si c'était pas une sainte.
L'effacement du manichéisme de cette histoire-là va jusque un peu. Comme dit, c'est un peu comme une histoire à la Roméo et Juliette, c'est-à-dire tu avais les Montaigu, les Capulet, quoi, qui
oui, les uns contre les autres.
La fatalité, c'est pas la faute de personne.
Un démon lui a sauté dessus au pauvre Bertrand Cantat. Le démon de l'amour, de la passion.
Voilà, c'est ça. Donc, je poursuis le passage. Donc, sans sortir du manichéisme, jusqu'à reprendre dans les conversations quotidiennes l'affrontement hors prétoire et à ciel ouvert des deux familles, vite présentées comme des clans. Comme si on ne pouvait soudain plus aimer le chanteur Bertrand Cantat et apprécier tout autant l'apport des Trintignants au cinéma français. Comme s'il fallait choisir son camp.
Là encore aussi une parenthèse, pourquoi est-ce qu'on en voudrait aux Trintignants? Excuse-moi, oui, il met ça en parallèle, là, le journaliste, alors que t'as pas à mettre ça en parallèle. À la limite que tu... Moi je sais que par exemple, Laurent qui était très fan de Bertrand Cantat, il a vraiment, premièrement il le passera plus jamais effectivement à la radio, mais il a beaucoup de mal alors qu'il adorait, c'était vraiment son groupe préféré. Hein. Mmh. Et il peut plus. Parce que quelque part, mais que tu puisses surmonter que tu puisses arriver à surmonter cet aspect vomitif quand même et tout, et que ça s'interpose ou pas, c'est une chose. Mais pourquoi est-ce que ce journaliste met en parallèle, pourquoi est-ce qu'on n'apprécierait plus l'apport de Jean-Louis Trintignant au cinéma français?
Oui, oui.
Bah, pourquoi? Parce que sa fille a été tuée?
Oui.
Sous les coups. C'est bizarre. Pourquoi tu lui en voudrais pour ça?
Oui, oui,
sérieusement.
Là, apparemment.
Non, c'est n'importe quoi.
Il faudrait choisir son camp.
Il faudrait choisir son camp, oui, mais pourquoi il dit comme si on ne peut plus apprécier l'apport du cinéma aux Trintignants? Mais tu te dis, mais même en admettant que tu te dises Marie Trintignant n'avait pas volé de mourir sous les coups, tu vas quand même pas en vouloir. Et puis en plus il dit au Trintignant, c'est-à-dire que t'en voudrais au père de Marie Trintignant,
toute la famille,
parce que sa fille a été tuée sous les coups. C'est quand même pas mal, je trouve, dans le genre pas manichéen.
L'émotion n'est pas lucide, dit l'article. L'émotion égare parfois. Pour les enquêteurs de Vilnius, ce qui est arrivé à Marie Trintignant n'est qu'un fait divers tristement banal qui sera jugé comme les autres, aussi loin que possible de l'émotion collective. Or, la justice rencontre rarement des monstres et des saintes absolus. Elle ne croise que des êtres qui, à un moment donné de leur existence, deviennent victimes ou coupables. Elle ne connaît que des personnes avec leur passé, leur complexité, leurs failles et leurs forces. Alors elle doit faire un travail minutieux, fouiller, interroger, confronter, chercher à comprendre comment le coupable est devenu coupable. Essentiel travail dont dépend la justesse de sa sentence.
C'est pas pour en venir à Albert Camus à l'étranger, mais je trouve que c'est une vision un peu fleur bleue de ce qu'est la justice. Mais bon, c'est juste une parenthèse.
Coupable Cantat, Combien prendra-t-il? Quelle peine lui infligera la société des hommes pour avoir tué Marie? La question n'est pas subsidiaire, elle est centrale et ne se satisfait pas de manichéisme. Sous ce prisme, la tragédie de Vilnius est, comme tous les drames conjugaux, d'abord l'histoire d'un homme et d'une femme, l'histoire de Marie et de Bertrand dans toute leur banale et extraordinaire humanité. Voilà.
Bon. C'est encore la faute à patience. Hein. Et puis c'est surtout le fait de voir un problème systémique. Alors que, ben, on va dire les choses un peu crûment, c'est pas vrai que rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir. C'est pas vrai. Je veux dire, quand tu vois la chanson de Diams, enfin, qui me tire d'ailleurs toujours des larmes, hein, c'est, je sais pas, enfin, vraiment, tu te dis, ben, tu vois pas très bien, quand tu vois les histoires, enfin, moi qui lis beaucoup de faits divers criminels, et puis, dès effectivement, qui sont moins mis en avant que l'affaire Quentin, ben, non, désolé, j'ai été moi-même battue, par un ex, hein, évidemment, et puis, dans ma famille, j'avais une tante qui était vraiment très très sauvagement battue et que c'est même arrivé devant moi et elle avait pas très bon caractère, mais je peux te dire que je peux pas renvoyer dos à dos cette femme, quel que soit son caractère, et le mec qui la battait, qui était d'ailleurs un proxénète d'une violence inouïe, et en effet il faut être manichéen sur ce truc là oui, il y a un coupable et oui, il y a une victime. Quand tu parles d'un féminicide, il y en a une qui va mourir. Et c'est une femme. Et en plus, il y a des femmes qui, pour de vrai, n'ont pas vu. Enfin, j'avais lu un bouquin sur le premier foyer de femmes battues. Quand tu vois les témoignages, tu vois bien qu'il y a des femmes qui n'ont pas vu le coup venir. Par exemple, elles se sont mises avec un mec qui était très sympa au début, et puis qui, progressivement, des fois, par exemple, c'est à l'occasion du fait qu'elle a un bébé, je sais pas pourquoi, ça déclenche un truc, où dès que le mec est sûr de la femme, quand il est marié, par exemple, eh bien, tout d'un coup, il se met à la battre, et excuse-moi, mais il y a aussi des victimes absolues. On peut le dire comme ça, c'est-à-dire que le fait qu'évidemment, c'est pas une blanche colombe qui a zéro défaut, mais dans cette situation, les femmes subissent. Elles subissent une situation et le mec qui dit tous les hommes sont potentiellement comme ça, ni potentiellement ni autrement, tous les hommes sont comme ça. Il y a d'ailleurs dans le truc dont je parlais tout à l'heure avec Lio et Muriel Cerf, il y a Michel Blanc qui est un ex de Lio, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est pas si flué que ça, il s'est pas mal musclé. Et en fait, il dit, ben, on s'est des fois vachement engueulé, on montait dans les tours, jamais ça me serait venu à l'esprit de la battre, jamais. Voilà quoi. Donc elle est tombée sur un mec qui était réellement violent, mais tous les mecs sur qui elle est tombée étaient pas violents, c'est pas. Et quand elle était battue par ce mec, c'était pas. Je suis absolument convaincue du contraire, que c'est pas une relation systémique, c'est pas une relation sadomasochiste. Je veux dire les relations de violence conjugale. Et c'est honteux de présenter les choses comme ça. Enfin, je pense que je prêche un convaincu, non ?
Ah oui, mais. voilà.
T'avais noté un autre passage.
Ouais, un autre passage affligeant du journal de l'époque. toujours la psychologisation de l'événement. Un paragraphe intitulé « La fureur conjugale ». Au-delà de raisons prétendument objectives, l'agressivité conjugale repose sur des images de l'autre qui vous habitent à votre insu et surgissent dans des situations propices. C'est que, dans un couple, il y a beaucoup de monde. L'homme est aussi une femme, la femme un homme, et chacun est pour l'autre à la fois un parent et un enfant. Mon chaton, mon bébé, mon grand. Au départ, tout va bien. Chacun a pour l'autre une figure merveilleuse, érotisée. Ensuite surgissent des représentations plus effrayantes. L'autre est souvent vécu comme une mère archaïque, disons une ogresse, dont nous avons à nous défendre en l'attaquant. Il est un danger pour soi. Dans certains couples, ce passage est très brutal. Dans toutes les cultures, la femme sait prendre une revanche sur l'homme fort et bête en le moquant. Dans la nôtre, c'est même un classique de la scène conjugale. Madame cherche à atteindre monsieur en le mettant hors de lui. C'est une façon de s'affirmer, de prendre sa revanche, parfois de châtrer l'homme. Le maître en colère, c'est une sorte de corrida où l'on agite du rouge au nez de l'autre qui prend peur et agresse. Un homme en colère est souvent comme un enfant devant une ogresse.
Ouais, c'est pas mal quand même.
C'est...
juste pour faire un commentaire par rapport à la situation générale des femmes battues. Ouais. Comme, en effet, je pense absolument pas, d'ailleurs la preuve en est, que Bertrand Cantat sort de prison en disant « Maintenant vous me foutez la paix, j'ai fait de la prison, on passe à autre chose et vous arrêtez de m'emmerder hein. ». Il le dit quasiment comme ça, pas quasiment, ouais. Il le dit comme ça. Mais de toute manière, je suis pas pour la prison en général, donc ni dans ce cas-là, ni dans un autre. Donc, même en attendant une autre société où les hommes, où il y aurait, parce que c'est pas tous les hommes, où il y aurait moins d'hommes violents et machos, c'est quand même une minorité d'hommes, faut pas exagérer, heureusement, tu vois. Mais enfin, donc que faire quand une femme est victime de violence? Alors, il y a déjà deux cas qu'il faut quand même, enfin, grosso modo, qu'il faut quand même prendre en considération. Moi, par exemple, quand j'étais battue, j'étais pas menacée de mort. Ma tante, elle était vraiment, il l'aurait tué, c'est sûr. C'est sûr et certain, mon oncle l'aurait tué. Et c'était quelqu'un qui avait déjà tué et qui a fait de la prison pour ça. Et c'est sûr qu'il ne l'aurait pas laissé partir. Et donc, je veux dire, il y a des femmes qui sont dans cette situation où elles sont menacées de mort. Et dans la chanson de Diams, elle le dit clairement. J'avais trop peur qu'il me tue. Elle a fini par prendre le risque parce que c'est pas une vie, et puis qu'elle a fini probablement par se dire il va me tuer de toute manière. Mais en même temps, j'avais parlé avec une femme par rapport à une copine qui est battue et justement menacée de mort, et donc elle est dans une association qui vient en aide aux femmes battues, et elle me disait, c'est la question de évidemment tu l'envoies en prison, il sort de prison, si c'est ce genre de mec, il y a pas de mesure d'éloignement qui tienne, il y en a qui même effectivement se suicident après, donc t'imagines s'ils vont avoir peur de la prison, mais c'est d'essayer minimum dans une association comme ça d'apporter de l'aide pour que par exemple, si vraiment le type est très dangereux, c'est le cas de la mère de ma nièce et tout, qui était battue pas par mon frère, mais par un autre homme. Mais parce qu'elle avait des sous, elle a pu se mettre au vert complètement, c'est-à-dire se cacher de lui, aller vivre en Bretagne dans un patelin perdu, retrouver un job, retrouver un logement. Et là, on en arrive à la question matérielle. Et le fait est que c'est une question qui est vraiment épineuse. J'ai rencontré aussi une femme, la maman d'un copain de mes enfants quand ils étaient petits, qui m'avait dit « Mon mari me bat, je voudrais pouvoir m'enfuir, mais il faut que j'ai un point de chute avec mes enfants. Est-ce que tu connaîtrais pas même un petit studio, même minable et tout ?» Malheureusement, comme tu sais, la crise du logement étant ce qu'elle est, je savais pas. J'ai dit « Et puis les foyers de femmes battues, elle m'a dit « Ils sont blindés, et puis c'est pas une solution pérenne. » Et puis ils sont blindés, ils avaient pas de place, tellement ils sont pleins en réalité. Donc tu te dis, c'est quand même là qu'on voit que arrive une question sociale aussi. Tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un qui, d'ailleurs, je me rappelle avoir vu des courriers de lectrices, c'était dans Détective, qui disaient qu'elle se reconnaissait pas dans Marie Trintignant comme icône, parce que Marie Trintignant, si elle avait voulu quitter Bertrand Cantat, elle pouvait matériellement parlant,
oui.
Alors que elle ne pouvait pas. Et en effet, il y a des associations de femmes battues auxquelles d'ailleurs on a accès que si on passe d'abord par le numéro vert de femmes battues, pour pas que les hommes aient accès à ce type de tuyaux pour cette association-là. Donc je vous dirai pas, je vous donnerai pas ces coordonnées-là. Et en fait, ils cherchent des logements, en particulier pour les femmes qui ont des enfants, où c'est pas mirifique, mais enfin où elles peuvent au moins aller. Et puis éventuellement aussi leur trouver un job pour qu'elles puissent subsister, voire aussi des subventions en attendant. Et puis tout ce qui peut être aide psychologique au sens les soutenir, c'est pas absolument pas de la psychologie au sens faire des études, mais d'être là,
de pouvoir parler pour les tout soutenir. Ça, oui, oui.
Pour les soutenir moralement en oui. Leur disant on est là quoi, tu vois. Mmh. Et voilà, je pense que s'il y a une solution, c'est dans le fait d'apporter une aide. Une aide matérielle et psychologique éventuellement aux femmes. Et les mesures d'éloignement, ça vaut pas grand chose si jamais c'est effectivement quelqu'un qui est si c'est quelqu'un qui est menaçant et tout, je vois pas ce que tu peux faire, et c'est pas la prison qui va arranger les choses. Le mec il sort, enfin j'ai moi qui lis des faits divers, beaucoup. Le mec sort foudrage et puis il bute tout le monde, les gosses avec, enfin c'est épouvantable. Et donc quand tu t'es tombé dans un merdier pareil, c'est comme avoir le cancer et tu te dis, ben, tu sais pas, tu te dis, ça devrait pas être à la femme d'essayer de se cacher. Mais c'est ça ou c'est la mort. Enfin, je veux dire, donc au minimum que tu aies ce choix de pouvoir te barrer. Moi, si je devais demander des lois, on a bien demandé des lois pour le droit à l'avortement, ça serait sûrement pas pour de la répression, ce serait pour une aide, pour qu'il y ait des aides matérielles pour les femmes qui veulent échapper à un mari violent, quoi, un mec violent. Voilà.
Bien, eh bien... J'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu viens de dire.
Oui, voilà, tu étais d'accord avec moi, c'est
oui,
plutôt comme ça aussi que tu verrais les choses. Oui, et puis dans le cas de Bertrand Cantat, le fait d'en faire une icône, il y avait des femmes qui disaient aussi que c'était particulier, dans la mesure où rien n'indique qu'il y ait eu des précédents, même si la mère de Marie Trintignant prétendait le contraire. Ce qui s'est passé, je vois pas comment on aurait pu le prévenir, dans la mesure où c'est pas comme les femmes qui sont battues de manière récurrente, même à la limite le cas de Christina Radi, qui en plus, alors là, je ne sais pas comment elle aurait pu faire, elle avait pas de problème matériel. Donc, toute la question, effectivement, de l'emprise, ça veut pas dire un rapport sadomasochiste non plus. Je veux dire, c'est un truc qu'on va dire facilement, ouais. Elle avait qu'à se barrer, mais l'emprise signifie pas que...
C'est vraiment un pouvoir que l'autre...
Signifie pas que t'es volontaire pour un truc pareil, et que ni que tu renvoies dos à dos la femme battue avec le fumier qui la bat, quoi.
C'est vraiment un pouvoir que l'autre a sur toi. Et que,
oui. Oui, voilà. Et même, des fois, ça passe même pas. D'ailleurs, cette femme à qui j'avais parlé dans cette association pour les femmes battues, elle m'avait dit qu'ils prennent en compte, y compris les femmes victimes de harcèlement moral. Oui. Que pour elle, par exemple, d'ailleurs, je crois qu'il y a même une loi, mais je vois pas à quoi ça peut servir, puisque c'est effectivement le problème, c'est de comment tu peux te barrer de là. Mais par exemple, rien que le fait d'être sous emprise morale et tout,
oui.
et puis tout ce qui est la surveillance, le harcèlement, tous ces trucs-là. T'as lu une BD que je t'avais passée, sur une.
Rappelle-moi l'auteur.
Ah, Sophie, je sais plus quoi.
Bon, d'accord.
Et ça s'appelle Tant pis pour l'amour.
Oui, Tant pis pour l'amour de Sophie.
Elle s'appelle Sophie et la BD s'appelle Tant pis pour l'amour.
Voilà.
Tout le passage où elle fait un diagnostic psy me paraît un peu superflu. Oui. En revanche, ce qu'elle dit, c'est qui me paraissait intéressant, c'est que pour quitter ce mec qui avait une emprise psychologique sur elle, il a fallu, et ça c'est un truc que je donnerais comme conseil à n'importe qui est dans cette situation, ça a été mon cas pour quitter le mec qui me battait, c'est d'arrêter, c'était un psy d'ailleurs. Et pas, enfin, je veux dire, un mec qui est carrément maître de conférence, enfin, tu vois.
Bon. Ouais,
mais je veux dire, il me faisait des diagnostics psy. Je sais pas si je préférais pas les coups, j'en avais marre, mais vraiment. Et c'est d'arrêter, d'essayer de le comprendre. Et c'est le mec qui te dit, on va essayer de comprendre ce qui m'arrive, qui s'explique, qui dit, il appelait ça métacommuniquer, qui parlait de communiquer sur notre relation. Tu vois, essayer d'expliquer quel était mon rôle, quel était le sien, expliquer quels étaient les arcanes de pourquoi il faisait ça, etc. Le lendemain, quoi, tu vois, eh bien, il faut arrêter d'essayer de les comprendre. Il faut arrêter d'essayer de le soigner, de le comprendre. Il faut se dire, faut s'enfuir, c'est tout.
Donc c'est ça, c'est s'enfuir.
Oui, la solution, c'est la fuite, il n'y a que ça. Et puis, il faut arrêter d'essayer de le comprendre. Enfin, je veux dire, tous ces trucs.
Oui,
justement,
voilà.
C'est là que tu vois à quel point c'est toxique, ce type d'article, ce type de démarche, d'essayer de comprendre.
Voilà,
tu vois,
voilà.
tous ces gens qui disent, oui, mais il faut essayer de les comprendre et tout. Non, il faut les fuir comme la peste. Voilà, ce serait mon conseil psy.
Eh bien, ce sera la conclusion de l'émission, en même temps. Et donc, c'était l'entonnoir. Nous vous disons à la semaine prochaine sur Radio Libertaire. Et on finit avec une chanson de Brigitte Fontaine, « Il pleut ».
Il pleut, c'est tout ce qu'il sait faire. je bouge. C'est tout ce que je sais faire. La nuit descend. C'est tout ce qu'elle sait faire. Il neige, c'est tout ce qu'il sait faire. J'ai peur, c'est tout ce que je sais faire. Les enfants naissent, c'est tout ce qu'ils savent faire. Tout ce qu'elle sait faire. Il gèle, c'est tout ce qu'il sait faire. Je pleure, c'est tout ce que je sais faire. La guerre éclate, c'est tout ce qu'elle sait faire. Ce qu'il sait faire. Je crie, c'est tout ce que je sais faire. Les mots sont froids, c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est dommage, c'est tout ce que ça peut faire.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Ressent Bonjour à tous, bienvenue dans Un rayon de soleil, l'émission du sud de la France sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Aujourd'hui, nous allons faire une émission en deux parties. La première partie, nous allons nous écouter du jazz. Nous allons nous écouter Kev Jarrett, Jack de Jonette et Gary Peacock, enregistré au Jazz à Juan. En 1996, c'est un très bon concert et ça va nous occuper la première partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission, nous écouterons une conférence intéressante, très intéressante, sur le siècle des Lumières en France, 1680-1800, par Jean-Michel Dufèze. Vous savez, cet historien, ce prof d'histoire en Belgique, qui nous fait toujours des conférences très intéressantes.